Épître aux Romains, chapitre 8.
Lecture de la parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils, en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui sont selon la chair ont leurs pensées aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit vie et paix, parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de rechef dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant, et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
Lecture de l'étude. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, verset 1. C'est avec ces paroles triomphantes que l'apôtre commence le 8e chapitre de son épître. C'est en quelque sorte le point final qu'il met d'un cœur plein d'allégresse à la fin de ses explications, le résultat glorieux des enseignements des trois chapitres précédents. Plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont dans le Christ Jésus. Quelle parole ! L'apôtre ne parle pas d'une chose que l'on peut obtenir peu à peu ou qui ne peut être la part que des chrétiens fidèles ou avancés, mais d'une réalité dont peuvent jouir tous ceux qui ont été amenés à cette position d'être dans le Christ Jésus. Cela a paru si incompréhensible dans cette forme inconditionnelle à quelques copistes des écrits du Nouveau Testament que l'un d'eux a considéré la fin du 4e verset « qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit » comme une restriction présumée utile et l'a mise à côté du texte, tandis que des copistes plus récents l'ont laissé dans le texte même. Dieu soit loué, son salut est inconditionnel. La délivrance de toute sentence de condamnation est la part de tous ceux qui sont dans le Christ Jésus. Je n'ai pas besoin d'ajouter que cela n'amoindrit nullement le devoir de tout croyant de marcher dans une vigilance continuelle et dans un sévère jugement de soi-même. Mais c'est une erreur néfaste, au fond une grande présomption, de faire dépendre la sûreté de cette position en Christ, de la marche et des sentiments du croyant. Nous savons de quelle manière cette précieuse position a été obtenue. Le péché dans la chair qui nous plaçait sous la sentence de la mort et de la condamnation a été jugé une fois pour toutes en Christ. Tous ceux qui sont dans le Christ Jésus ont été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, sont crucifiés avec lui, morts avec lui. Chapitre 6, verset 5.
Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection.
C'est pourquoi il ne peut plus y avoir de condamnation pour eux. Ce qui est la part de Christ est la leur. De même qu'il ne peut y avoir de condamnation pour le Christ ressuscité, de même il ne peut y en avoir non plus pour ceux qui sont en lui. Toujours à nouveau, nous trouvons la même grande vérité qu'à la croix, à côté de l'expiation de tous les péchés des croyants, le péché dans la chair aussi, qui leur a causé tant de tourments, a été jugé. Ils ne sont plus maintenant des hommes dans le premier Adam, mais ils se trouvent maintenant devant Dieu comme des hommes en Christ. Ils sont, comme nous allons le voir ensuite, dans l'esprit, non plus dans la chair. C'est la place que la grâce leur a donnée, une position qui comporte pour eux des devoirs sérieux et saints, mais qui ne dépend nullement du degré de leur connaissance ou de la fidélité de leur marche. Le croyant marche fidèlement, non pas pour obtenir cette position, mais parce qu'il la possède. Car, lisons-nous ensuite, « La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Verset 2. De nouveau, nous trouvons le mot « loi » dans le sens déjà connu du chapitre 7, comme un principe qui agit invariablement de la même manière et cherche à atteindre son but. Voir aussi les expressions « loi des œuvres » et « loi de la foi » au chapitre 3, verset 27.
Où donc est la vanterie? Elle a été exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi.
L'expression « loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus » fait allusion à cette puissante et invariable opération de l'esprit de vie en notre bien-aimé Sauveur qui, après avoir accompli son œuvre, est apparu au milieu de ses disciples en vainqueur de la mort et du tombeau, pour leur communiquer cette vie et l'esprit comme source et puissance de vie, la vie en abondance. Jean 10, verset 10.
Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance.
Or, de même que cette loi a opéré en Christ, de même la loi du péché et de la mort formait en nous le principe dominateur auquel nous ne pouvions pas échapper. Le chapitre précédent nous a suffisamment montré le pauvre état et la complète incapacité qui nous caractérisait. Ce n'est que lorsque l'homme, mentionné dans ce chapitre, a cessé de chercher à vaincre par des efforts légaux le péché qui habite en lui et s'est soumis sans réserve à la justice de Dieu que la délivrance est intervenue. Remarquons cependant que cette vérité n'est pas exprimée ici sous une forme embrassant tous les croyants comme une règle s'appliquant de la même manière à tous, mais que l'apôtre se sert encore une fois de la forme personnelle, et cela pour la dernière fois dans ce sujet. D'après ce premier verset, nous nous attendions ici à un « nous » plutôt qu'à un « moi », comme dans le verset 4. Or, bien que le « aucune condamnation » s'applique à tous les chrétiens, il est dit dans le deuxième verset « car la loi de l'esprit m'a affranchi de la loi », etc. Cela veut dire que, malgré la liaison indissoluble du verset 2 avec le contenu du verset 1, nous avons ici une question d'expérience personnelle qui pourrait bien être la part de tous et connue de tous, mais qui très souvent n'est pas comprise et qui, par suite de ce manque de compréhension et malheureusement aussi souvent par suite d'infidélité, n'est pas réalisée pratiquement. En réalité, c'est quelque chose d'indiciblement grand de pouvoir dire à la suite de l'apôtre « car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi, non pas m'affranchira, mais m'a affranchi pour ne plus être soumis désormais à la loi du péché et de la mort, mais pour servir le Seigneur dans l'heureuse liberté d'un racheté et dans la puissance du Saint-Esprit comme un homme en Christ. » L'apôtre exprime spontanément le désir pour lui et pour tous ses lecteurs croyants que nous connaissions le contenu de notre verset, non seulement comme une chose que nous possédons en Christ, mais que, la réalisant pratiquement, nous tenions notre chair pour morte et manifestions que nous sommes réellement délivrés de sa domination. Comme nous l'avons dit si souvent, le fondement de tout cela, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette glorieuse œuvre de la rédemption est encore une fois mise en contraste avec l'impuissance complète de la loi de Sinaï. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils, en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. L'insuffisance complète de la loi pour pouvoir aider à l'homme nous a été très clairement démontrée, chapitre 7. La loi pouvait exiger, condamner, maudire, mais non pas sauver. Or ce que la loi n'a pas pu faire, Dieu l'a fait. Il est intervenu en envoyant son Fils unique pour régler la question du péché et, pour cela, Christ a dû venir sur cette terre comme un homme en chair et en sang, né de femme, sans péché, pur et saint, mais en ressemblance de chair de péché, et c'est ce qui a eu lieu. La parole devint chair. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Et non seulement Christ a dû venir, et sa perfection comme homme être mise à l'épreuve tout le long de son chemin ici-bas, mais la question du péché ne pouvait être résolue que par sa mort, et le péché ne pouvait être éloigné que par un saint sacrifice pour le péché. La vie sainte et sans péché de notre Sauveur ne pouvait pas nous sauver. Elle a manifesté seulement la laideur de notre triste état. Le grain de blé devait tomber en terre et mourir. Autrement, il serait demeuré éternellement seul, Jean 12, verset 24.
En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Nous lisons aussi en Hébreux 9, verset 26, qu'il a été manifesté en la consommation des siècles, une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice.
Mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice.
Il n'y avait pas d'autre moyen d'éloigner le péché. Or Dieu s'est servi de ce moyen et a ainsi résolu à sa propre satisfaction cette question qui était insoluble autrement. Le péché dans la chair a été jugé dans sa racine. Notre ancien état a disparu pour toujours, et le croyant, délivré de la puissance et de la domination du péché qui habitait en lui, n'est plus obligé désormais de vivre selon la chair, mais il peut et doit marcher selon l'esprit. Verset 4. Certes, le péché est encore en lui, mais il ne peut plus amener de jugement sur lui, puisqu'il a été déjà jugé en Christ. En même temps, le croyant, en jugeant lui-même le péché en soi, témoigne qu'il est d'accord dans son cœur avec Dieu et non pas avec le péché. L'existence du péché en lui ne peut pas le troubler, ni l'empêcher de vivre près de Dieu. Ce n'est que s'il permet au péché d'agir et s'il commence à marcher selon la chair que sa communion pratique avec le Dieu saint s'interrompt et reste interrompue jusqu'à ce qu'il confesse sincèrement son péché. Alors le Père, selon sa fidélité et sa justice, lui pardonne et le purifie de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.
Le fait que le croyant peut manquer n'affecte donc en rien sa position devant Dieu. Il est douloureux et humiliant qu'un chrétien pêche, et les conséquences peuvent en être très sérieuses. Mais cela ne touche en rien la question de sa rédemption. Il est en Christ, et étant en lui, il ne peut pas plus y avoir de jugement et de condamnation pour lui que pour Christ lui-même. Il se trouve dans le ressuscité, au-delà de la puissance de Satan, au-delà du lieu où, pour la foi, la chair a été jugée, et où le vieil homme a été crucifié. Étant crucifié avec Christ, ce n'est plus lui qui vit, mais Christ vit en lui. Galates 2, verset 20.
Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Il est très intéressant de constater le rapport qui existe entre les trois premiers versets de notre chapitre et les trois chapitres précédents. La première moitié du cinquième chapitre nous a enseigné le fait qu'étant justifiés par la foi, nous avons le pardon des péchés, la paix avec Dieu, etc. En revanche, la deuxième moitié nous a parlé de l'état pécheur dans lequel nous nous trouvions comme descendants du premier Adam et de la position de juste dans laquelle nous avons été amenés par l'obéissance du second Adam. Ainsi aussi, le premier verset du huitième chapitre nous dit que nous sommes maintenant dans le Christ Jésus et que, comme tel, non seulement nous n'avons plus à craindre aucune colère, mais qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Le chapitre 6, ensuite, nous a parlé de la domination du péché sous laquelle nous gisions et nous a montré comment cette domination a été brisée dans la mort de Christ. De même ici, au deuxième verset, nous lisons que la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Enfin, le septième chapitre nous a fait connaître les expériences d'un homme qui, ne connaissant pas la justice de Dieu, cherche à se procurer une justice légale. Ainsi aussi, le troisième verset de notre chapitre parle du fait que Dieu, en envoyant son Fils bien-aimé, a accompli ce qui était impossible à la loi, et que si Christ s'est occupé des fruits de l'arbre corrompu, ce n'est pas pour nous laisser le soin d'en finir devant Dieu avec l'arbre lui-même. Non, il s'est occupé de l'état complet dans lequel nous nous trouvions par nature. L'arbre a été jugé, le péché dans la chair a été condamné, et pour le croyant, il a été éloigné à toujours des yeux de Dieu. Certes, le croyant peut maintenant en toute confiance lever la tête, mais il peut et doit aussi suivre, par la grâce de Dieu, les goûts et les tendances de la nouvelle nature qui est en lui, de l'esprit de vie dans le Christ Jésus. Le verset 4 conduit à ce résultat pratique. Dans la mesure où le chrétien sait et réalise par la foi qu'il se trouve devant Dieu, dans une nouvelle nature, le nouveau moi est libre en lui, même si le vieux moi cherche à faire valoir son influence mauvaise, de marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. Et, dans la même mesure qu'il réalise cela et qu'il manifeste dans sa vie les résultats de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, le droit, c'est-à-dire la juste exigence de la loi, est accomplie en lui. Verset 4. Aussi longtemps qu'un homme reste pratiquement sous la loi et s'efforce d'améliorer en lui la chair et d'accomplir les justes exigences de la loi, il ne rencontrera qu'amère déception. Mais quand l'âme a reconnu la plénitude de la grâce qui est à sa disposition dans le Sauveur, mort et ressuscité, et qu'elle détourne ses regards du misérable moi pour les porter sur Christ, alors, non seulement elle remplit dans la puissance du Saint-Esprit les exigences de la loi vis-à-vis de Dieu et de son prochain, mais elle les dépasse encore. Le croyant peut représenter Dieu comme ressuscité d'entre les morts, en aimant ses ennemis, en bénissant ceux qui le maudissent, etc. On peut, par la grâce agissant en lui, voir dans le croyant la manifestation de Dieu, quoique, cela va sans dire, avec beaucoup d'imperfections. On voit Dieu lui-même dans le croyant ou, en d'autres mots, on ne voit pas seulement ce qu'un homme devrait être, mais ce que Christ, l'homme de Dieu, était ici-bas. Son image est représentée dans le croyant, même si c'est avec faiblesse et beaucoup de manquements. En rapport avec les derniers mots du verset 4, les quatre versets suivants, versets 5 à 8, développent encore plus en détail le contraste entre ceux qui marchent selon la chair et ceux qui marchent selon l'esprit. Dans les deux cas, il y a une nature agissante, active, qui a ses penchants et ses buts propres. Car ceux qui sont selon la chair ont leurs pensées aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit, verset 5. Il ne s'agit pas ici d'une mesure plus ou moins grande de fruits, mais du caractère des deux natures. Chacune a ses pensées à ce qui lui est propre, à ce qui la caractérise, chair ou esprit. Les nouveaux principes qui agissent dans les chrétiens sont en opposition avec ceux de tous les autres hommes. L'homme dans son état naturel, la nature déchue et étrangère à Dieu, est selon la chair, et suit ses mauvais penchants et ses convoitises. Le chrétien, ou la nouvelle nature qu'il a reçue, est selon l'esprit qui habite en lui, et sous l'influence duquel il se trouve. Des pensées complètement nouvelles sont éveillées dans le croyant, les pensées d'une nature qui est née de l'esprit et qui recherche ce qui est de l'esprit. Une nature sainte qui aime les choses saintes, délivrée du joug du péché et qui cherche ce qui est spirituel. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit est vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas, versets 6 et 7. La chair et l'esprit sont et restent opposés l'un à l'autre. La pensée de la chair est dirigée vers les choses visibles. Elle amène la mort aussi bien maintenant qu'éternellement. Point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. La pensée de l'esprit, par contre, est vie et paix, une source en nous qui jaillit en vie éternelle et qui remplit l'âme de paix et de joie. En Christ, c'était la perfection, tandis que dans le chrétien, la réalisation en est imparfaite, comme cela a déjà été dit souvent, mais l'apôtre ne parle pas de cela ici. Il développe seulement des principes. Or, la pensée de la chair n'est pas seulement la mort. Elle se révolte aussi contre Dieu, ne reconnaît pas son autorité. En un mot, elle est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi à laquelle l'homme est soumis naturellement, puisqu'elle est la règle de conduite de la créature responsable vis-à-vis de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Quel jugement accablant de la part de celui qui juge justement. Elle est si perverse qu'elle ne le peut pas. Aussitôt que Dieu donne un commandement, l'esprit de rébellion se montre en elle. La propre volonté mauvaise est sa règle de conduite. Elle veut être indépendante et est tout ce qui plaît à Dieu. C'est pourquoi l'homme a besoin d'une nature entièrement nouvelle qui aime Dieu et les choses célestes. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, Jean 3, verset 6. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu, verset 8. Comment serait-il possible que Dieu puisse contempler avec bon plaisir des êtres tels que nous venons de les dépeindre? Ces êtres dans la chair, ou nés de la chair, c'est-à-dire des êtres qui, comme descendants du premier Adam déchu, se trouvent devant Dieu dans sa position et marchent sur ses traces selon la chair. Être dans la chair ne signifie donc rien d'autre que corruption irrémédiable, jointe à la révolte et à l'inimitié contre Dieu. Dieu soit éternellement loué de ce que le croyant ne se trouve plus dans cette position. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, verset 9. L'habitation du Saint-Esprit dans le croyant est la preuve irréfutable que ce dernier n'est plus dans la chair, mais dans l'esprit. Déjà au chapitre 7, verset 5, nous avons lu « Car, quand nous étions dans la chair, etc. » Et le chapitre 6 en entier nous a montré des êtres qui, délivrés de la domination du péché, vivent pour Dieu et lui livrent leurs membres comme instruments de justice. L'homme dépeint dans la deuxième moitié du chapitre 7 ne peut pas encore le réaliser. Il est, avons-nous déjà dit, comme l'enfant prodigue, converti et sur le bon chemin, mais il n'a pas encore reconnu par la foi ce qu'est le Père et comment il s'est révélé en Jésus-Christ. L'assurance personnelle du complet pardon et de l'acceptation par le Père n'est pas encore présente dans l'âme. Cette assurance ne peut se trouver que dans un être dans lequel habite le Saint-Esprit. Ce n'est que lorsqu'on se trouve dans les bras du Père et que l'on est vêtu de la plus belle robe que l'on cesse de penser à soi, de parler de soi et de faire des efforts pour s'améliorer. Le Père, ce qu'il est et ce qu'il fait, remplit alors l'horizon entier de l'âme. Elle rend grâces à Dieu par Jésus-Christ. S'oubliant elle-même complètement, elle se repose dans ce que Jésus a fait pour elle. Elle est en état d'entrer dans la maison du Père et de participer à ses joies. Certes, elle a encore des responsabilités, mais ces dernières ont un tout nouveau caractère. Elles sont d'un tout nouveau genre. Nous répétons à nouveau que le croyant est un homme en Christ, et un homme dans l'esprit qui n'est pas sous la loi, et pourtant pas sans loi. La grâce lui donne tout ce qu'il faut pour marcher selon sa nouvelle position. Répétons encore une fois qu'il ne s'agit pas dans le passage qui nous occupe ici d'un état variable de l'âme qui fait des progrès ou qui se refroidit selon sa spiritualité et sa fidélité. Non, c'est un privilège qui appartient à tout vrai croyant, à quiconque est de la foi de Jésus, et cela non pas pour un temps seulement, mais pour toute sa carrière jusqu'au but. Il était autrefois dans la chair, et il est maintenant dans l'esprit. La fin de notre verset le confirme. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui, ou celui-là n'est pas chrétien, du moins pas dans le vrai sens du mot. Il peut bien arriver qu'une âme ait la vie de Dieu sans être scellée de l'esprit, comme celle du chapitre 7. Mais la règle générale est que Dieu donne l'esprit à quiconque reçoit par la foi la parole de la vérité. Aujourd'hui, quiconque entend l'évangile du salut et y croit est scellé du Saint-Esprit de la promesse, selon Éphésiens 1, verset 13.
Le Christ, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit de la promesse.
Pourquoi donc l'apôtre parle-t-il ici de l'Esprit de Christ? Y a-t-il un Esprit de Dieu et un autre Esprit de Christ? Non, il n'y a qu'un seul Esprit. Toutefois, ce n'est pas sans raison que les deux expressions sont employées. Ne serait-ce pas le fait que l'Esprit de Dieu s'est manifesté en Christ dans une vie consacrée à Dieu jusqu'à son dernier souffle? Ainsi, en le contemplant, nous pouvons voir ce qu'était cette vie, et quiconque ne manifeste pas les traces de cette vie ne donne aucune preuve que le même Esprit qui était autrefois en Christ agit en lui. Ainsi, tout en ayant peut-être un beau témoignage extérieur, il n'est pas vraiment à lui. Il n'est pas un chrétien. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, verset 10. Dans le premier verset, nous lisions que nous, croyants, nous sommes en Christ, et ici que Christ est en nous, et de ce fait est tirée la conclusion que le corps est bien mort à cause du péché, mais que l'esprit est vie à cause de la justice. Le corps est le vase terrestre dans lequel le péché habite et agit. Si je lui laisse faire sa volonté, il n'en résultera que du péché. Qu'ai-je donc à faire étant un homme dans lequel Christ vit? Je suis appelé à m'appliquer la mort à ne pas obéir aux convoitises de mon corps mortel, mais à faire mourir les actions du corps. Chapitre 6, verset 12.
Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci.
Chapitre 8, verset 13.
Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Dans la mesure où je le réaliserai, le péché perdra sa puissance sur moi, et l'esprit pourra sans entrave agir en moi dans une vie qui produira les fruits de la justice. Si Christ est en moi, la question se pose, est-ce ma volonté qui désormais doit prévaloir ou la volonté de Christ? Le moi nouveau répondra sans hésitation, la volonté de Christ. Bien, mais cela ne peut se réaliser que si je ne permets pas à mon corps de manifester sa vie, et si je tends à ce qui est de l'Esprit de Dieu, à ce qui lui plaît. N'oublions pas que les fruits de la justice pratique ne peuvent croître que si l'on se tient pour mort au péché, mais pour vivants à Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Une telle vie n'est-elle pas une vie d'esclavage? Au contraire, c'est une vie de liberté qui n'est plus asservie à la chair et à ses convoitises. Une vie dans laquelle on peut suivre avec bonheur Christ sous la direction de son esprit. Puisse-t-il nous être accordé à tous de marcher toujours plus de cette manière, jusqu'à ce que nos corps d'abaissement soient transformés en des corps glorieux, dans lesquels le péché n'habitera plus. C'est de cette troisième et dernière délivrance que l'apôtre parle dans le magnifique passage suivant. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Verset 11. Les effets de la mort et de la résurrection de Christ s'étendent ainsi aussi à nos corps mortels. Non seulement il n'y a plus de condamnation pour moi, non seulement mon âme peut se réjouir dans la précieuse délivrance de la domination du péché et de la mort, mais aussi mon pauvre corps, qui porte en soi le germe de la mort, éprouvera un jour les conséquences glorieuses de l'œuvre de rédemption de Christ. Et s'il est enseveli dans une tombe, il ressuscitera. Dès maintenant, il est le temple du Saint-Esprit, et plus tard, il sera de nouveau vivifié pour servir de demeure éternelle et glorieuse à l'âme délivrée. Considérons bien ceci, c'est que, contrairement à ce que l'on entend souvent dire, ce n'est pas un nouveau corps que nous recevrons, mais c'est l'ancien qui sera ressuscité et transformé. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. 1 Corinthiens 15, verset 51. Le Saint-Esprit, qui habite déjà notre corps maintenant, parce que le croyant est rendu en Christ participant de la vie éternelle, ne renoncera jamais à ses droits sur le corps. Aussi sûrement que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et que pour cette raison l'Esprit de Dieu habite en nous, aussi sûrement nos corps mortels seront-ils aussi ressuscités. Satan n'a plus de droit sur eux. Ils ont été achetés à prix et appartiennent à Christ. Ainsi notre délivrance sera complète. La liberté de la grâce est, par le Saint-Esprit, déjà aujourd'hui, notre part dans la position que nous avons en Christ. La liberté de la gloire est encore future, mais nous la posséderons certainement parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il est les arts de notre héritage. Éphésiens 1, verset 14.
Le Saint-Esprit de la promesse qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire.
Il nous garantit la résurrection de notre corps. Avant de passer à la méditation du paragraphe suivant, nous voulons encore nous rappeler une fois les trois différents points de vue, ou caractères, sous lesquels nous apparaît l'Esprit dans ce passage. Il est d'abord l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui est la source puissante de tout bien en nous. Il nous encourage, nous réprimande, nous exhorte et nous avertit, etc. Ensuite, il est l'Esprit de Christ qui s'est révélé ici-bas dans la vie et la marche de Christ et doit maintenant caractériser notre vie et notre marche. Puis, en troisième lieu, il est l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et nous donne l'assurance que la même puissance qui a ressuscité Christ transformera aussi nos corps mortels en la conformité de son corps glorieux. Philippiens 3, verset 21.
Jésus-Christ, comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose.
L'apôtre, dans les versets suivants, tire la conséquence pratique de ce qu'il a dit jusqu'ici. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Versets 12 et 13. Puisque nous sommes des êtres qui ne se trouvent plus dans la chair, nous n'avons plus aucune relation avec elle, et pouvons même la vaincre par l'esprit en la tenant pour jugée et en nous tenant pour mort. Nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair. Involontairement, on a le sentiment qu'il manque quelque chose à la phrase. On s'attend à un « mais ». Toutefois, la parole de Dieu est toujours juste et parfaite. Nous aurions continué à peu près ainsi, mais nous sommes débiteurs de l'Esprit pour vivre selon l'Esprit. Cela serait absolument en accord avec les penchants légaux de nos cœurs. Pourtant, l'écrivain inspiré ne parle pas ainsi. Cela nous ravirait la précieuse liberté dans laquelle nous avons été amenés par notre Rédempteur et nous placerait de nouveau, quoique d'une manière différente, il est vrai, sous une loi qu'il ne nous serait pas plus possible d'accomplir que l'ancienne. Toutefois, par notre nouvelle position, nous avons de sérieuses obligations. Une sainte responsabilité ne nous lie-t-elle pas à cette position? Certainement. Mais ces obligations ne pèsent pas sur nous comme une loi. Elles résultent de la nouvelle vie qui nous est accordée. Elles sont en accord avec les désirs de notre nouvelle nature et s'accomplissent dans la puissance de l'Esprit. Jacques parle à cet égard de la loi parfaite, celle de la liberté, parce que la volonté du nouvel homme est à tous égards en accord avec la volonté de Dieu. Jacques 1, verset 25.
Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son faire.
C'est le désir du nouvel homme de faire cette volonté. En réalité, le contraste demeure entre les deux principes qui opèrent en nous, la chair et l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre ajoute aussi, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Dans les deux cas, le résultat est certain. Dans le premier, comme une conséquence naturelle et nécessaire. Dans le second, comme quelque chose d'assuré par Dieu lui-même. Dans le premier cas, c'est la mort. Dans le second, ce sont la vie et la gloire qui sont notre part. Ici, le lecteur peut soulever la question, est-ce que donc un enfant de Dieu peut être perdu? Je réponds, il ne s'agit pas de cela dans ce passage. Ici, nous n'avons pas affaire au côté divin, mais au côté humain de la question. Dieu nous a donné une nouvelle vie, et cette vie ne s'écoule pas selon la chair, car elle ne le peut pas. Or si, malgré cela, je vis selon la chair, je reviens alors en arrière sur le terrain de la vieille nature, de la chair, et pour autant que la chose dépend de moi, je mourrai, car le fruit, le juste salaire d'une vie selon la chair est la mort. Il est impossible, pourrait me dire Dieu, qu'un tel chemin aboutisse à la vie. Si, par contre, par l'esprit, je fais mourir les actions du corps, je vivrai. Je vivrai pour toujours avec le Dieu qui m'a donné la vie et dont l'esprit habite en moi et agit dans cette vie. Le salut inconditionnel du croyant sur le fondement de l'œuvre de Christ est une vérité. Sa responsabilité, sa marche fidèle à la suite de Christ en est une autre. Laissons chacune de ces vérités où Dieu l'a placée. Tout est alors simple et clair, tandis que si nous les mélangeons comme on le fait malheureusement si souvent, la confusion en est la conséquence inévitable. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Verset 14. Par ce passage, nous venons à la merveilleuse relation dans laquelle nous avons été amenés comme étant des êtres qui ne sont plus conduits par la chair et qui ne se trouvent plus, non plus, comme autrefois Israël, dans la position de serviteur ou d'esclave. Nous sommes conduits aujourd'hui par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, non pas dans une crainte servile, mais dans la paix. S'il en est ainsi, c'est donc la preuve que nous sommes fils de Dieu. L'Esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de servitude pour être de rechef dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Verset 15. Là où se trouve cet esprit, là est la liberté. Sous la loi, il n'y avait que servitude et crainte. Le Saint-Esprit opérait bien dans les croyants de l'Ancien Testament et les employait comme témoins et messagers de la vérité, mais cependant ils n'habitaient pas en eux. Les disciples eux-mêmes, avant la résurrection et l'ascension du Seigneur, ne purent pas avoir l'assurance formelle d'être fils de Dieu, et pourtant le nom de Père leur avait été révélé. Cette assurance est maintenant notre précieuse part depuis que le Saint-Esprit est descendu personnellement et a fait sa demeure en nous comme esprit d'adoption. Paul écrit aux Galates « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père !» Galates 4, verset 6. Nous ne sommes pas sous une férule, nous ne sommes pas en bas âge, ayant à suivre les commandements d'un tuteur ou d'un curateur, mais nous sommes conduits par l'Esprit, comme fils de Dieu, ayant conscience de cette relation. Quelle relation pour des êtres tels que nous étions autrefois ! Et ensuite, nous lisons, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui, versets 16 et 17. De la relation dans laquelle nous avons été amenés, découlent des bénédictions merveilleuses. Non seulement l'Esprit nous a communiqué une nouvelle vie et a éveillé en nous les sentiments et les désirs d'enfants, mais il témoigne aussi avec notre esprit, précisément cette nouvelle vie engendrée en nous, que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à la famille de Dieu et que, pour cette raison, nous participons à tout ce qui est propre à cette relation. Il ne s'agit donc pas ici du témoignage de Dieu, nous venant du dehors, concernant notre délivrance par la foi en Christ, mais d'un témoignage en nous, du sentiment certain que possède l'âme d'être un enfant de Dieu. Et j'aimerais poser la question, n'avons-nous pas ce témoignage, cette assurance ? Ne crions-nous pas avec une confiance enfantine « Abba, Père ?» Et pourquoi pouvons-nous crier ainsi ? parce que l'Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne pourrions pas crier ainsi si le témoignage n'était pas en nous. Avant d'aller plus loin, quelques mots seulement sur les titres de fils et d'enfant. Le titre de fils nous fait penser plutôt à notre position et aux privilèges qui s'y rattachent, en contraste avec le nom de serviteurs ou d'esclaves. Tandis que le nom d'enfant fait allusion plutôt à l'intime relation dans laquelle nous sommes vis-à-vis du Père, comme nés de Dieu. Nous ne sommes pas seulement adoptés comme fils, placés dans la position de fils, mais nous sommes aussi engendrés comme enfants dans la famille de Dieu, pour jouir déjà maintenant des joies de cette relation et pour être bientôt introduits avec Christ dans la possession de tout ce qui appartient à Dieu lui-même. Nous sommes enfants de Dieu avec toutes les merveilleuses et éternelles bénédictions qui découlent de cette relation. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Israël était autrefois l'héritage de Dieu, place bénie. Toutefois, notre place est infiniment plus élevée et plus glorieuse. Nous sommes héritiers de Dieu, sa possession est la nôtre. Le second nom, co-héritier de Christ, nous montre comment cela est devenu possible. C'est avec lui seulement que nous pouvons et devons tout partager. Avec lui qui, comme le premier-né de toute la création, et le premier-né d'entre les morts, le Créateur et le Rédempteur, a un droit incontestable sur toute chose, et, dans sa grâce merveilleuse, il nous fait participer à ces choses. Mais il va sans dire que toujours et en toute chose, comme homme, il doit avoir la première place. Colossiens 1, verset 18.
Il est le chef du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place.
Et si nous pensons à lui comme Dieu, il est clair que nous ne pouvons jamais participer à sa divinité. Et pourtant, comme enfants, nous avons une part à la nature divine, et comme fils, à la plénitude de bénédictions qui se rattachent à ses titres. Or, le chemin qui conduit à ce but glorieux, placé devant nous, passe par la souffrance. Aucun chrétien ne peut lui échapper. C'est pourquoi nous avons cette fin de phrase « Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui ». Cette condition a déjà déconcerté plus d'un lecteur à cause d'une lecture superficielle du passage. Il en est souvent ainsi quand nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons trop vite ou trop superficiellement, nous y mélangeons nos propres pensées au lieu de sonder les pensées de Dieu sans parti pris et avec prière. Le passage dit clairement « si du moins nous souffrons avec Christ », et pourtant on a supposé qu'il s'agit de souffrance pour Christ. Nous savons par Philippiens 1, verset 29, et par notre propre expérience que les souffrances pour Christ, souffrances pour le nom de notre Seigneur, sont un privilège qui n'est pas accordé à chaque croyant. Philippiens 1, verset 29.
Parce qu'à vous, il a été gratuitement donné, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui.
Par contre, nul vrai croyant ne peut échapper aux souffrances avec Christ. Notre Seigneur et Sauveur était dans le monde. Avant d'aller à la croix, il était un homme de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur. Un monde de péchés et de morts, de souffrances et de larmes, dominé par les principes de la chair, ne pouvait être, pour sa sainte nature et son cœur plein d'amour, qu'une source continuelle de douleur et de deuil. Il marcha entièrement seul, comme un étranger solitaire, incompris souvent, même de ses disciples qui affligeaient son cœur par leur égoïsme, leur incrédulité, leur manque d'intelligence et d'autres sentiments semblables. Les choses qu'il voyait et entendait offensaient ses yeux et ses oreilles, blessaient son cœur et en même temps éveiller sa profonde sympathie. Au milieu de ces choses, il ne rencontrait pour lui-même aucune sympathie et aucun consolateur. Il ne récoltait en échange de son amour que de la haine et de l'ingratitude, et en échange de sa bonté, la moquerie. Ainsi aussi l'homme spirituel ressent sur son chemin ce que Christ a ressenti, quoique moins profondément. Sa nature également est opposition à tout ce qui l'entoure. Il souffre là où Christ a souffert. Il souffre avec Christ. Son amour pour Dieu et pour ses semblables, ses sentiments pour la pureté et la sainteté, son respect du nom et des droits de Dieu et de son oin, oui, tout ce qui en lui appartient à la nature divine, devient en lui une cause de souffrance. Les conséquences du péché qu'il voit autour de lui, jointes à l'incrédulité, à l'indifférence et à l'opiniâtreté des hommes, le font souffrir. Tout déshonneur apporté à Christ, toute parole impure ou blasphématoire lui font de la peine. Même le brigand sur la croix réprimanda son compagnon pour l'outrage qu'il fit au Seigneur. Il en éprouvait de la douleur. Cependant, Dieu soit loué, il n'en sera pas toujours ainsi. C'est précisément en ayant part aux souffrances de Christ que l'on est assuré de participer à sa gloire dans le ciel. Bientôt, tous ceux qui souffrent ici-bas seront glorifiés avec lui dans le ciel. Si quelqu'un ne souffre pas dans une mesure quelconque avec lui, ne serait-ce que pour quelques jours ou même quelques heures, comme le brigand, cela prouverait qu'il n'est pas né de Dieu, qu'il n'est pas un chrétien. Car comment l'Esprit de Christ pourrait-il opérer dans un cœur sans produire les sentiments qui se trouvaient en Christ lui-même? Nous sommes, il est vrai, enfants de Dieu, et ainsi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et cependant, nous ne possédons pas encore l'héritage, non seulement parce que nous sommes encore dans nos corps, mais aussi parce que notre héritage lui-même est encore souillé et soumis à la corruption. Telle qu'elle est maintenant, la création ne convient pas pour les héritiers, ni pour le Seigneur, ni pour les siens. Pour cette raison, il est assis à la droite de Dieu, attendant, et nous aussi avec lui, l'heure de la révélation de la gloire à venir. À l'égard de cette gloire, l'apôtre, qui connaissait la souffrance plus qu'aucun d'entre nous, pouvait écrire aux Romains, « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. » Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Versets 18 et 19. L'Esprit de Dieu, pour nous encourager, dirige nos regards sur cette gloire et nous dit que les souffrances par lesquelles nous passons aujourd'hui, aussi accablantes qu'elles puissent être, ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui est devant nous. Jusqu'à quel point la réalisons-nous ? L'apôtre, pour ce qui le concernait, pouvait dire « j'estime ». Il ne savait pas seulement, mais il en était pleinement convaincu. Dans les versets 22 et 28, où il s'agit d'une part commune à tous les croyants, il dit « nous savons ». Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors nous aussi nous serons manifestés avec lui en gloire. Colossiens 3, versets 3 et 4.
Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire.
C'est cette révélation des fils de Dieu qu'attend ardemment la création entière. Elle souffre et soupire, car elle est assujettie à la vanité, non de sa volonté, elle n'a pas de volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti, le premier Adam, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant, versets 20 à 22. La création soupire sous les conséquences de la chute qui l'a amenée sous la servitude de la corruption. Quand l'homme, le chef de la première création, tomba, son sort fut partagé par toute cette création. Nous ignorons combien elle était belle avant la chute, mais nous savons que d'après l'appréciation de Dieu, tout était très bon. Genèse 1, verset 31.
Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Et il y eut soir et il y eut matin le sixième jour.
Le péché de l'homme a tout gâté. Mais combien précieuse est la pensée que la création qui, par notre faute, est tombée sous la servitude de la corruption, attend le moment où nous serons glorifiés pour être délivrés de cette servitude. Et combien merveilleux sont les voies et les conseils de Dieu. Dans sa grâce infinie, il s'occupe d'abord des coupables, de ceux qui, par leur chute, ont produit toute cette misère, et il choisit des êtres auxquels il veut manifester les richesses de son amour et de sa miséricorde pour faire participer à la gloire dans les siècles à venir la création tombée dans la corruption par leur faute. Dieu a parlé par les prophètes d'autrefois de ce rétablissement de toutes choses, de la régénération, comme le Seigneur l'appelle en Matthieu 19, verset 28.
Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. »
Et voir Acte 3, versets 19 à 21.
Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps.
En nous acheminant vers la manifestation de cette gloire, nous qui, par nos corps, appartenons encore à cette création, nous l'exprimons. Par nos soupirs, nous participons aux soupirs de la création souffrante d'une manière agréable à Dieu, et d'autant plus profonde que nous reconnaissons ce qu'est le péché, et que nous nous en séparons pratiquement dans notre marche. Notre bien-aimé Sauveur était entièrement sans péché, source de toutes les souffrances, mais il avait sympathisé d'une manière parfaite sous les conséquences de ce péché. Il soupira profondément en esprit et se troubla lorsque, sur le chemin du tombeau de Lazare, il vit pleurer Marie et les Juifs qui l'accompagnaient. Ces derniers pensaient qu'il versait des larmes à cause de son grand attachement au défunt. Hélas, il ne se doutait pas de la vraie cause de son trouble. L'apôtre compare cette création à une femme qui est en travail et qui attend impatiemment la naissance de son enfant annoncée par les douleurs qu'elle ressent. Elle ne peut pas hâter cet événement, elle ne peut que soupirer et attendre. Il en est de même de la création. Elle soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Ceux-ci ne se distinguent pas encore extérieurement des autres hommes. Ils peuvent être faibles, pauvres ou difformes, ils souffrent et meurent comme eux, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Bientôt ils apparaîtront avec Christ en gloire, comme ses cohéritiers, après avoir été ressuscités d'entre les morts ou transmués. Alors la création sera affranchie pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cette délivrance de la servitude de la corruption dépend de la révélation de la gloire, lorsque Dieu réunira en un toutes choses dans le Christ. Éphésiens 1, verset 10.
Il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre.
Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce et personne ne peut jouir de la liberté de cette grâce si ce n'est par la foi. Lorsque la liberté de la gloire des enfants de Dieu apparaîtra, Les conséquences bénies de l'œuvre rédemptrice de Christ se manifesteront aussi envers la création. C'était le bon plaisir de toute la plénitude habitante en Christ de réconcilier toutes choses avec elle-même, par lui, ayant fait la paix par le sang de la croix. Colossiens 1, verset 20.
Car en lui toute la plénitude s'est plu à habiter, et par lui à réconcilier toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux.
Ces choses ne sont pas encore réconciliées aujourd'hui, mais le sang expiatoire de Christ, qui est le fondement de cette réconciliation, a été versé. L'œuvre nécessaire a été accomplie. Et non seulement la création, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps, verset 23. Nous ne soupirons pas parce que nous sommes accablés par la vanité des choses d'ici-bas, mais parce que l'Esprit nous fait sentir le contraste existant entre notre état actuel et la gloire qui est devant nous, état qui nous est rappelé continuellement par nos corps qui ne sont pas encore délivrés. En effet, l'adoption n'est pas encore, dans le plein sens du mot, notre part. Pour cela, il faut que nous soyons revêtus d'un corps glorifié par la puissance de Christ. Nous possédons ce trésor dans des vases de terre, et nous désirons, avec ardeur, d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel. 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5. En étant remplis de l'espérance de la gloire, nous sommes amenés, par la contemplation des choses qui nous entourent, à ces soupirs qui sont en quelque sorte l'expression des soupirs de la création. Ces soupirs ne sont pas, comme nous l'avons déjà dit, les fruits de notre mécontentement ou de notre impatience, mais ils sont produits par le Saint-Esprit qui habite en nous et dont nous avons les prémices. Les soupirs du croyant sont donc produits dans un esprit d'amour, et plus l'amour de Dieu qui est versé dans son cœur agira par l'Esprit, plus il sentira profondément que tout ce qui l'entoure est opposé à Dieu. Car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience, versets 24 et 25. Le croyant, rendu parfait dans sa conscience et conduit par la puissance du Saint-Esprit, réalise que les choses qui sont devant lui et qu'il ne voit pas encore sont une espérance qui ne confond point. Il ne sait pas quand il les contemplera, mais il sait d'une façon certaine qu'elles viendront, et ainsi il attend avec patience. Cette espérance le fait ainsi jouir en quelque sorte des choses futures comme si elles étaient actuelles. De même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, verset 26. Quelle merveilleuse grâce! Nous avons vu auparavant que l'Esprit habite en nous, nous conduit et rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ici, il nous est dit qu'il condescend à s'identifier avec les croyants dans leur état actuel de faiblesse. Nous sommes des êtres de chair et de sang, faibles, ne voyant pas loin, sujets aux influences du dedans et du dehors. De nature, nous sommes peut-être anxieux et craintifs. Nous nous lassons facilement et nous perdons courage. Or, tout en traversant ce monde, et en pensant en amour à ceux qui font les mêmes expériences que nous pouvons jouir de la profonde sympathie de notre souverain sacrificateur dans le ciel, qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché, et nous avons en nous l'hôte divin qui intercède continuellement pour nous par des soupirs inexprimables. Dans les choses qui sont en rapport avec cette création, les tentations, les maladies, les difficultés, etc., qui nous assaillent, nous et nos frères dans ce monde, oui, même dans toutes nos circonstances, Nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Nous ne connaissons pas de remède et nous ne distinguons pas les vues de Dieu. Nous ne pouvons alors que soupirer. Mais l'Esprit qui, lui-même, produit ses soupirs en nous, se joint à nous dans ces soupirs qu'aucune parole ne peut exprimer, et notre Dieu et Père, en haut, qui nous voit et nous entend, sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Verset 27. Quelle grâce que nous puissions avoir la certitude que le Dieu qui sonde les cœurs, phrase importante, découvre dans nos soupirs la pensée de l'Esprit. Car si nos cœurs sont sincères devant Dieu, c'est l'Esprit qui exprime nos sentiments, les sentiments d'être qui appartiennent encore à cette création et participent à ses souffrances, et alors Dieu comprend l'Esprit. Et non seulement cela, mais nous savons en même temps que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Verset 28. Nous ne savons pas toujours, par manque de connaissance, ce qu'il faut demander comme il convient. L'apôtre Paul lui-même en est un exemple, en 2 Corinthiens chapitre 12. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle précieuse consolation! Remarquons en outre l'expression « de ceux qui aiment Dieu ». Il n'est pas dit « de ceux que Dieu aime », ce qui est pourtant toujours vrai, cela va sans dire. Il s'agit d'être vivant dans un monde étranger à Dieu, sur lequel ses yeux se reposent avec bon plaisir, auquel il a préparé ce qu'aucun œil n'a vu, et ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. 1 Corinthiens 2, verset 9.
Mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment.
Voir Jacques 1, verset 12.
Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car, quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment.
Et Jacques 2, verset 5.
Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime?
Ces êtres, il les a appelés hors du monde, selon son propos divin, et en a fait don à son Fils bien-aimé, et maintenant, ils connaissent leur relation d'enfant vis-à-vis du Père. Lorsque Dieu considère sur cette terre les enfants de ce monde, dont l'esprit est inimitié contre lui, il envoie quelques-uns qui l'aiment, si faiblement même que ce soit. Ils ne peuvent l'aimer que parce que lui les a aimés le premier. Certes, leur amour sera toujours faible et petit, mais cela ne change rien au fait qu'ils sont les objets de l'amour de Dieu et qu'il fait concourir toutes choses, les petites comme les grandes, à leur bien. À cette précieuse assurance s'ajoute encore le fait que les croyants, dès avant la fondation du monde, étaient les objets du propos de Dieu, qu'il les a préconnus, oui, même prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Verset 29. Déclaration merveilleuse. Elles aboutissent à ce qui est exprimé à la fin de notre chapitre, à savoir que Dieu est pour nous, et que, pour cette raison, aucune puissance, ni dans les hauteurs, ni dans les profondeurs, ne peut nous séparer de son amour. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Versets 29 et 30. Dans cette glorieuse chaîne des pensées et des voies de Dieu qui, s'élevant d'une éternité à l'autre, relie le conseil divin à notre glorification dans la maison du Père, la grâce de Dieu brille d'un éclat incomparable. C'est le seul passage dans notre épître qui parle des conseils de Dieu avant les temps des siècles, mais il est d'un effet imposant. Aussi, nous comprenons bien l'exclamation de l'écrivain « Que dirons-nous donc à ces choses ?» Les deux derniers versets cités nous montrent que le travail de Dieu à l'égard de ceux qu'il a appelés ne cesse pas. Il commence dans l'éternité et se termine dans l'éternité. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et destinés à être conformes à l'image de son Fils. Sa grâce ne cessera pas jusqu'à ce qu'il ait atteint ses propos d'amour, jusqu'à ce qu'il voie devant lui tous ses appelés glorifiés et conformes à l'image de son Fils. Le regard de Dieu repose encore avec délice sur l'homme de sa droite, sur le Fils de l'homme qui siège en haut dans la gloire de la résurrection, et c'est à cette gloire qu'il nous a prédestinés. C'est une telle gloire qui doit être la part de ceux qu'il lui a donné du monde. Déjà ici sur la terre, il y a, dans le sens spirituel, selon la fidélité de chacun, une conformité plus ou moins grande avec Christ. Mais comme fils de la résurrection et comme fils de Dieu, nous devons être aux yeux de Dieu dans des corps conformes au corps de gloire du Fils bien-aimé. Pourtant, malgré l'intime liaison qui nous unit à lui, nous le contemplerons avec adoration, et c'est avec une profonde joie que nous l'appellerons Seigneur, lui qui seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la bénédiction. Celui qui sanctifie, et nous les sanctifiés, nous sommes tous d'un, de sorte qu'il n'a point honte de nous appeler ses frères. Hébreux 2, verset 11.
Car et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères.
Et cependant, il sera, dans toute l'éternité, pour la joie du Père et pour l'accomplissement de ses conseils, le premier-né entre plusieurs frères. Et comme tel, il formera le centre rayonnant de tous les bienheureux qui, transformés à son image, le verront comme il est. 1 Jean 3, verset 2.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que, quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est.
Et qu'en sera-t-il d'eux? Ils se prosterneront avec allégresse et jetteront leur couronne devant le trône de celui qui les a aimés et s'est donné lui-même pour eux. Il ne nous reste qu'à jeter un coup d'œil sur la fin de notre merveilleux chapitre. Les déclarations que nous venons de considérer conduisent l'apôtre à cette conclusion déjà mentionnée, qui est en rapport avec tout l'enseignement de l'Épître et qu'il exprime au nom de tous les croyants, à savoir que Dieu n'habite pas seulement par son Esprit en nous, mais qu'il est aussi pour nous, c'est-à-dire que tout son amour est à notre disposition. Et un Dieu qui aime d'une telle manière, un tel Dieu ne refuse rien. C'est ainsi que nous lisons « Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui ? Le don du Fils est une réalité. Il est le plus grand, il renferme en lui-même tous les autres. Si Dieu n'a pas épargné pour nous celui qui était la joie et les délices de son cœur, le centre de toutes ses pensées, s'il l'a livré pour nous, alors que nous étions encore des impies et des ennemis, comment pourrait-il maintenant que nous sommes des saints et bien-aimés nous refuser quelque chose de bon? Et en outre, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourrait s'opposer au Dieu éternel et nous arracher à ses bras puissants? Qui pourrait nous ravir sa faveur ou l'empêcher d'exercer son amour envers nous? C'est pourquoi bienheureux tous ceux qui peuvent dire avec une foi enfantine « Dieu est pour moi ». En dehors de ce qui a déjà été dit, l'apôtre nous donne ici trois preuves du fait que Dieu est réellement pour nous. La première est précisément le don de son Fils. La seconde, que Dieu lui-même nous justifie. Et la troisième, que rien ne peut nous séparer de son amour. Dans la première preuve, nous avons avant tout devant les yeux l'amour de Dieu, qui est la source de toutes les autres. Tous les croyants ne comprennent pas cela. Beaucoup ne voient en Dieu avant tout que le juste juge, dont la colère a été, il est vrai, détournée par l'œuvre de Christ, mais qui néanmoins est assis sur son trône comme un juge dur et sévère. Ils n'ont pas l'assurance que Dieu est amour et est, pour cette raison, l'origine et le fondement de notre salut. Ils ne voient en Dieu que la sainteté et en Christ seul l'amour. Il en était presque généralement ainsi au jour de la Réformation, et il en est encore beaucoup ainsi de nos jours. Mais Dieu soit loué, ce n'est pas la justice qui règne aujourd'hui. Elle règnera une fois, quand le jour du jugement sera venu, et malheur à tous ceux qui devront la rencontrer. Non, c'est la grâce qui règne par la justice. Chapitre 5, verset 21.
Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.
Il est de toute importance pour la paix de nos cœurs que nous le comprenions clairement et que nous ayons ainsi de justes pensées sur Dieu. Il est certes vrai que Christ a tout accompli pour satisfaire la justice de Dieu, mais il est également vrai que c'est l'amour de Dieu qui a prédestiné l'agneau à souffrir et à se donner pour nous. Nous avions besoin de la justice de Dieu pour pouvoir nous tenir devant lui, mais aussi de son amour en activité dans le Christ pour que nous y participions. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, et en ce qu'il a fait Christ être péché pour nous, nous sommes devenus sa justice en lui. 2 Corinthiens 5, versets 19 et 21.
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui.
Notre foi et notre espérance se fondent ainsi sur Dieu lui-même. Voir 1 Pierre 1, verset 21.
Vous qui, par lui, croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance fussent en Dieu.
Sur le fondement de la justice de Dieu, éternelle et invariable, nous savons qu'il est pour nous selon son amour infini. Et maintenant, nous pouvons compter avec toute assurance qu'il nous accordera avec Christ dans notre course tout ce qui est bon et finalement la gloire elle-même. Mais Dieu ne demeure-t-il pas toujours saint et juste? Certainement. Nous pouvons changer et être infidèles à ce que nous confessons être. Lui, par contre, demeure fidèle, ne change pas. Il ne peut pas se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13.
Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
C'est certainement une sérieuse vérité, mais ne sommes-nous pas des élus de Dieu qu'il a rachetés si chèrement au précieux prix de son agneau sans défaut et sans tache? Et s'il en est ainsi, qui intentera accusation contre des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Versets 33 et 34. Si Dieu lui-même prend fait et cause pour nous, nous pouvons certes être remplis de confiance. Et pourquoi peut-il agir ainsi et fermer la bouche de tout accusateur? La réponse est Christ, le Fils de l'homme mort et ressuscité, et assis maintenant à la droite de Dieu. Satan est nommé l'accusateur des frères. Apocalypse 12, verset 10.
Et jouis une grande voix dans le ciel disant, « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité.
Mais que peut-il faire si le juge lui-même justifie? Il aurait mieux fait en son temps de ne pas accuser le souverain sacrificateur Joshua, le représentant de la ville pécheresse de Jérusalem, Zacharie chapitre 3. Son attaque se termina pour lui par une complète défaite, et à la gloire de la grâce et de la justice de Dieu. Il en sera toujours ainsi. Est-ce que l'Éternel n'avait pas choisi Jérusalem? Est-ce que Joshua n'était pas comme un tison arraché du feu? Que pouvait répondre Satan lorsque l'ange commanda d'enlever à Joshua les vêtements sales et de lui mettre des vêtements de fête et une tiare pure sur la tête? Cet événement merveilleux n'est qu'une faible image de la réalité actuelle. Nos rapports avec Dieu ont une intimité qu'Israël ne connaîtra jamais. La grâce de Dieu et sa justice sont manifestées bien plus clairement pour nous depuis que Christ est mort et a été ressuscité et qu'il occupe sa place à la droite de Dieu. Dieu lui-même apparaît donc ici comme celui qui justifie. Nous ne sommes pas seulement justifiés par la foi devant lui. Ce qui est dit de Christ lui-même par l'esprit prophétique, « Celui qui me justifie est proche. Qui contestera avec moi? Voici, le Seigneur l'Éternel m'aidera. Qui me condamnera? » Ésaïe 50, versets 8 et 9, est mis ici par l'apôtre dans la bouche des croyants. Quelle identification merveilleuse et bénie! Mais il y a encore Jésus. Non seulement Dieu nous justifie sur le fondement de l'œuvre de son Fils, mais le Fils lui-même, comme l'homme ressuscité et glorifié, intercédera sans cesse pour nous, aussi longtemps que nous sommes dans nos corps. Pourrait-il y avoir une consolation plus grande? Ici-bas, le Saint-Esprit intercède pour nous, et en haut, le Fils de Dieu le fait. Connaissant ces deux réalités, nous pouvons comprendre que même les difficultés du chemin ne peuvent affaiblir le lien puissant qui nous unit à Christ et par lui à Dieu. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée, verset 35. L'apôtre ne veut pas dire que ces choses ne se rencontrent pas. Elles sont présentes, et nous les ressentons dans toute leur acuité. Le Fils de Dieu lui-même a passé par toutes ces épreuves et ces souffrances. Il a expérimenté tout ce par quoi l'adversaire a cherché à détourner l'homme de Dieu du chemin de séparation et d'obéissance. Il n'y a pas de souffrance, de douleur, d'épreuves de foi qu'il n'ait pas traversées, et il les ressentait toutes infiniment plus profondément que nous ne le pouvons. Mais il est sorti vainqueur de toutes. C'est pourquoi, si même l'apôtre et d'autres aussi ont pu expérimenter la vérité de cette parole, « Pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour, nous avons été estimés comme des brebis de tuerie », si même toutes les difficultés et souffrances décrites au verset 35 se trouvent sur notre chemin, la fin peut dire avec courage, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, versets 36 et 37. Ces derniers mots sont dans ce passage d'une force et d'une beauté particulière. Qui est-ce qui a poussé notre Seigneur à parcourir son pénible chemin dans ce monde? Pourquoi a-t-il pris sur lui toutes ces tribulations et ces souffrances, en plus des souffrances expiatoires? N'était-ce pas en son amour merveilleux et incomparable? L'amour pour nous, pour des êtres misérables et haïssables. Ainsi, ce n'est pas seulement sa puissance qui opère en nous des êtres faibles et nous aide à traverser toutes les difficultés, mais c'est avant tout son amour qui nous porte, nous encourage, nous relève et dirige nos regards sur la gloire dont nous avons précisément un gage dans ses souffrances. De Corinthiens 4, verset 17-18.
Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles.
Oui, qui nous séparera de cet amour ? En présence d'un tel amour, l'apôtre termine par ce cri d'allégresse, « Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » C'est 38 et 39. Il s'agissait en premier lieu des difficultés et des ennemis visibles de ce monde. Puis l'apôtre énumère toutes ces puissances et principautés invisibles qui pourraient sembler capables de nous séparer de l'amour qui nous conduit sur le chemin de la gloire. Or, si l'on peut les énumérer l'une après l'autre, la mort ou la vie, les choses présentes et les choses à venir, les principautés dans les hauteurs et dans les profondeurs, que sont-elles toutes ? Rien d'autre que des choses créées. Elles ne sont rien devant le Créateur Tout-Puissant et en face de son amour qui ne cesse pas et qui surmonte tout. Si, en rapport avec les choses visibles, il nous est parlé de l'amour de Christ, ici, lorsqu'il s'agit des choses invisibles, nos regards sont dirigés sur l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Chacun, comme un autre écrivain l'a dit, est exactement à sa place. L'amour de Christ s'est manifesté dans ses souffrances extrêmes pour nous ici-bas et se déploie aujourd'hui dans le ciel par son intercession pour nous. L'amour de Dieu qui se manifeste, il est vrai d'une manière moins visible, mais qui est également infini et invariable, a tout préordonné pour nous, nous a tout pardonné en grâce, il nous garde et nous entoure sur le chemin, et en dépit de toutes les puissances ennemies qui peuvent s'opposer à lui, il nous amènera à la plénitude d'amour et de joie et de gloire qui seules peuvent convenir à un tel Dieu et à l'œuvre de rédemption d'un tel Sauveur. Connaissant cet amour, quoique faiblement il est vrai, possédant dans nos cœurs ce trésor de richesses inépuisables, nous pouvons bien, nous aussi, joindre nos cris de victoire à ceux par lesquels l'apôtre commence et termine ce chapitre. Aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, aucun ennemi, aucune principauté ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ et de l'amour de Dieu. Même si toutes les choses qui nous entourent s'écroulent, si toutes portent le sceau du péché et de l'éloignement de Dieu, la foi s'en détourne et contemple les choses invisibles. Elle se repose dans l'amour de Dieu et tient ferme dans le combat et les souffrances. Même à travers la brume qui pourrait l'empêcher de voir, elle regarde à celui qui, après avoir accompli son œuvre, a été couronné d'honneur et de majesté et s'est assise à la droite de Dieu, où il attend maintenant les siens pour les faire participer à sa joie et à sa gloire. Dieu est pour nous. Quelle parole merveilleuse !